Bonsoir, bienvenue dans cette édition de Tribune de la Presse qui vous propose trois thèmes à savoir Procès Tibéa, le colonel Daniel Moukalaï ainsi que quatre autres prévenus ont été condamnés hier jeudi à la peine de mort par la cour militaire. Ensuite, clôture mardi dernier à Lubumbashi de la 7e commission mixte RDC Afrique du Sud. Plusieurs accords ont été signés par les deux chefs d'État, notamment sur la coopération dans le secteur de l'eau. Enfin, processus électoral, les signatures mardi dernier de la charte de la plateforme politique dénommée Alternant Vital Caméré AVK en sigle. Participe à ces débats, quoi qu'on soit journaliste, il s'agit de Benoît Cambéré, le rédacteur en chef du magazine Les Échos de la région des Grands Lacs, un magazine qui paraît ici. Bonsoir Benoît Cambéré.
Bien, bonsoir Guy.
Saïd Mbalanga, il est éditeur, directeur, responsable du journal La Topo, c'est un hebdomadaire qui paraît aussi ici à Kinshasa. Bonsoir Saïd Mbalanga.
Bonsoir, chers confrères.
Clément Mangoubou, il est éditeur, responsable du journal Mwangaza, un hebdomadaire qui paraît à Kisangani, en province orientale. Bonsoir Clément Mangoubou.
Bonsoir, confrères.
Verdict dans le procès Tibéa, clôture à Lubumbashi de la 7e commission mixte RDC Afrique du Sud, ainsi que mise en place de la plateforme Alternance Vital Caméré Arica en sigle. Pour savoir comment la presse a traité ces différents thèmes, écoutons cette revue de presse que nous propose Kéline Couté.
Bonsoir. Commençons cette revue de presse par le verdict tombé hier jeudi dans le procès Tibéa. Affaire Tibéa, le verdict est tombé hier jeudi. Moukalaï et consorts condamnés à mort. C'est le titre à la une du quotidien Le Phare. Au journal de poursuivre, des éléments autres que ceux du droit ont milité pour cette condamnation, accuse la défense du colonel. Les ONG, quant à elles, refusent de lâcher le général John Numbi. Cependant, l'avenir se félicite du fait que la cour militaire de Kinshasa ait condamné quatre policiers à mort, dont le colonel Moukalaï des services spéciaux, considéré par la cour comme auteur intellectuel de l'assassinat de Floribert Tchebeya. La tempête de tropique, quant à elle, constate que la DFV réclame toujours la comparution de John Numbi, qu'elle considère comme suspect numéro 1 de la mort de ces deux activistes de droits de l'homme. Rendons-nous à présent au Katanga pour parler de la clôture de la 7e session de la commission mixte RDC Afrique du Sud. Au palmarès, de titrer l'eau potable en RDC préoccupe Kabila et Zuma. Au journal, cette rencontre a permis de renforcer les relations diplomatiques entre les deux États représentés au plus haut niveau par leur président. Le journal précise que selon cet accord d'approvisionnement en eau potable, ce sont les villes katangaises de Lubumbashi et l'Ikati qui seront les premières bénéficiaires. Dans le même chapitre, on peut lire à la une de la référence plus, Kabila et Zuma signent des accords. Selon ce journal, les deux chefs d'État ont signé quelques accords de coopération bilatérale, dont celui du secteur de l'eau potable. Sur le plan politique, le président sud-africain a souligné que son pays s'engage à contribuer aux prochaines élections sur le plan logistique en vue d'assurer la réussite du processus électoral congolais. Terminons cette revue de presse par la sortie officielle de la plateforme politique L'Alternance Vital Caméré AVK. Après la DTP de Tshisekedi, voici l'AVK de Caméré titre Forum des As. Le journal souligne que déjà une vingtaine de partis politiques, des personnalités et des organisations de la société civile ont signé la charte de la nouvelle plateforme. Au journal de se poser la question de savoir qui de Tshisekedi et Vital Caméré représentera l'opposition politique congolaise à la présidentielle de 2011.
Merci Kelly Couquet. Un petit commentaire Benoît Cambéré, vous êtes rédacteur en chef du magazine Les Échos de la région des Grands Lacs, un magazine qui paraît ici à Kinshasa. La presse a fait son travail, elle a aussi fait état de l'assassinat mercredi dernier du journaliste Pacheli Kambale Moussenia au Nord Kivu, c'est à Kirumba, il était journaliste de la radio communautaire Lubero Sud.
Absolument, tout en m'inclinant devant la mémoire de notre confrère de Kirumba, n'est-ce pas, je crois que tous les titres qui ont été donnés là reflètent ce qui s'est passé pendant cette semaine, particulièrement le verdict tant attendu du procès Tibéa.
Saïd Mbaranga, vous êtes éditeur directeur responsable du journal La Soco, c'est un hebdomadaire qui paraît ici à Kinshasa. L'autre actualité, c'est le gouvernement américain qui réitère son soutien au processus électoral en République démocratique du Congo avec près de 13 millions de dollars américains.
J'applaudis sincèrement tous les pays du monde qui veulent que la paix revienne dans ce pays et que les Congolais puissent évoluer dans le bon sens. Que les Congolais se sentent heureux chez eux, ceux qui veulent faire la politique seront la politique, ceux qui sont dans la classe de la société civile seront dans la société civile. Donc, moi j'applaudis et je dis que les Américains sont les bienvenus de nous, les Sud-Africains également, et tous les pays limitrophes, et tous les pays épris de paix et de liberté sont les bienvenus au Congo Kinshasa, et s'ils sont là pour nous aider, et tant mieux, on applaudit, vraiment on applaudit.
Clément Mangougou, vous êtes éditeur responsable du journal Mwangaza, c'est un hebdomadaire qui paraît à Kinshasa, en province orientale. Quelle est l'information qui est à la une dans cette ville de la province orientale?
Bon, l'actualité dominée par cette réglige des logements sociaux par Kibali et Kogue Mining à des villageois qui avaient été délogés de leur site à Ouacha. Parce qu'on y avait découvert un important gisement d'or, ils sont partis et on a construit des logements sociaux pour eux. Ils ont été rétablis dans ce logement-là par les vice-premiers ministres Simon Boulouki, qui accompagnaient le gouvernement des provinces. Mais il y a aussi ces peuples à Kisangani, et même dans certains coins de la province orientale, beaucoup de gens prennent les pas pour aller se faire enrôler, au motif que ils n'ont rien vu et que ceux qui avaient été élus n'ont rien fait pour eux. Alors, cette résistance donne lieu à des campagnes de sensibilisation qui s'intensifient pour dire aux gens qu'il s'agit là d'un devoir civique, d'un devoir patriotique et que s'ils si estiment que rien n'a été fait, ils auront un moment pour sanctionner ceux qui n'ont rien fait.
Merci, notre premier point de ce soir, procès TBA, le colonel Daniel Mukalai ainsi que Krasser Ostre prévenus ont été condamnés hier jeudi à la peine de mort par la cour militaire. Le colonel Daniel Mukalai condamné à la peine de mort dans le procès Floribert TBA. La cour militaire a prononcé aussi sa destitution de la police nationale congolaise. Le verdict est tombé ce jeudi à la prison centrale de Makala. La cour a également condamné 4 autres présumés assassins de TBA à la même peine sur les 8 officiers poursuivi pour le double meurtre de Chebea et Fidel Bazana, défenseur émérite des droits de l'homme, trois ont été acquittés. Mais les partis civils et la défense ont promis d'interjeter appel les récits de la sentence avec Jeff Congoui.
À l'égard de tous les prévenus, la Cour dit non établie l'infraction de l'association des malfaiteurs et les anarchiques. En revanche, elle dit établie à charge de Daniel Mukalai l'infraction d'assassinat de Féribert Chebea, celle d'arrestation et détention arbitraire de son chauffeur Fidel Bazana. Pour le prévenu Christian Goy, la détention illicite d'armes et munitions de guerre, la désertion simple et le terrorisme. Elle prononce contre lui et contre Paul Moulambo et Jacques Mugabo la peine de mort et la destitution, la servitude à perpétuité et la destitution pour Michel Mouila. Cependant, ce dernier est acquitté de l'infraction d'arrestation et détention arbitraire de Bazana. Aucune charge retenue à l'encontre de Blaise Mangangou, Georges Kitungo et François Moulangoy. La Cour les renvoie de fin de toute poursuite. Civilement reconnus responsables des faits à charge de ces préposés, la République et les prévenus sont condamnés à dédommager les familles biologiques et professionnelles des victimes, notamment en payant l'équivalent en francs congolais de 50 000 dollars à chaque veuve, 35 000 à chaque enfant, 10 000 à la BSV. Le juge président Massoud Dimoun a clôt ainsi le procès TBA au premier degré après 7 mois de 39 audiences. Toutes les parties disposent de 5 jours pour interjeter appel.
Les parties au procès Floribert Chebea ne sont pas totalement satisfaites de cette double sentence sur Chebea et Bazana. Hier, elles ont exprimé un sentiment partagé sur le verdict. Les avocats des parties civiles estiment qu'elles sont déjà en appel parce que le système numéro 1, disent-ils, le général Don Mungi, n'est toujours pas arrêté. De son côté, la défense estime qu'il faut tout simplement annuler ce verdict. Selon le collectif des avocats des prévenus, la cour militaire n'a pas dit le droit. Ils pensent qu'elle a superficiellement survolé sa plaidoirie. On va lire une des journaux. Nous avons le quotidien Le Potentiel qui dit procès TBA, Mukalai condamné à mort, John Mungi lavé. Nous avons le quotidien L'Observateur qui dit verdict suite du procès de Floribert Chebeya. Le colonel Daniel Mukalai et quatre policiers condamnés à la peine de mort, les condamnés en 5 jours pour interjeter appel. Nous avons le quotidien Le Phare qui dit affaire CBA, le verdict est tombé hier, et Mukalai et consorts condamnés à mort. Et nous avons le quotidien Forum des As qui dit après 6 mois de procès, les assassins de Floribert Chebeya condamnés à mort. Benoît Cambéré, ces arrêts ont été très attendus par l'opinion. Et comment vous les analysez?
Bon, d'abord, je voudrais préciser que c'est seulement Daniel Mukalai et 3 autres officiers qui ont été condamnés à mort, pas 4, c'est-à-dire Daniel Mukalai plus 3 autres officiers. Le 4e officier, qui est Michel Mouila, le lieutenant Michel Mouila, lui est condamné à la prison à perpétuité. Voilà, cela étant, c'est vrai que c'était un verdict qui était très attendu. Depuis la semaine dernière, déjà, j'ai d'ailleurs personnellement posé la question hier de savoir quel était l'officier qui était malade la semaine dernière pour qu'on reporte ce verdict. On m'a dit non, c'était un détail, ça n'a plus d'importance. Bref, à cause de ce malaise ou de cette maladie de cet officier, c'est seulement cette semaine que le verdict est tombé. Comme il fallait s'y attendre, il y a eu des satisfactions d'une part. Par exemple, à titre d'exemple, parmi les acquittés, ils ont soufflé vraiment un ouf de soulagement. Absolument. Bien qu'il y ait des doutes pour le troisième qui était, semble-t-il, qui travaillait de connivence avec celui qui a été condamné à perpétuité. Bref, il y a eu des satisfactions et des déceptions. Les déceptions de la part de la défense, d'abord, qui a décidé d'interjeter appel, la défense notamment du colonel Mukalai, et bien sûr la défense des partis civils qui ne sont pas satisfaits. Bon, satisfaits partiellement, parce que au moins, comme l'ont déclaré les avocats, au moins il y a un pas vers ce qu'on a toujours déploré, l'impunité. Au moins, on va punir quelqu'un. Mais ils disent, on a peut-être puni l'exécutant, mais on n'a pas puni le commanditaire. Et c'est là qui fait problème pour eux. Il ne faudrait pas non plus que la cour s'arrête là. Parce que, à titre d'exemple, parmi les fugitifs, il y a l'adjudant Paul Milamwe, le chef du protocole, qui a été aperçu à l'inspection générale de la police au mois d'avril et qui a été arrêté et il n'a jamais comparu. Il est à Kinshasa, semble-t-il, arrêté par les prévôtés militaires et arrêté à la police. Depuis le mois d'avril, on aurait pu le déférer devant les juges pour qu'on entende aussi sa version. Eh bien non, cela n'a pas été fait. Il y a également les 2 fugitifs, Jacques Nogabo, qui se trouverait en Ouganda, pays limitrophe, qui a des accords d'extradition avec notre pays, et le lieutenant-colonel Christian Ngoy Kenga-Kenga, hein, qui est le commandant de bataillon d'élite Sima, n'est-ce pas, qui se trouverait au Rwanda et qu'on aperçoit de temps en temps à Goma. C'est des choses que la Cour devait poursuivre. Comme on a des services de sécurité et là-bas, et on a des accords, on devrait les extrader pour que toute la vérité soit connue sur cette affaire, parce que c'est sur cette fin-là que beaucoup de gens sont restés. On ne sait pas qui a tué Bazana et Bazana, d'ailleurs, on ne dit pas qu'il a été tué, il a été enlevé et détenu illégalement. On n'a jamais vu son corps. Qui a tué Floribert Chebeya? Pourquoi on l'a tué? Dans quelles circonstances? C'est toute cette vérité que beaucoup de gens attendent.
Mais on n'a pas répondu à cette question-là.
On n'a pas répondu à plusieurs questions.
Salut Mbanda, tous ces partis ont promis d'interjeter appel. Comment vous analysez les réactions de ces partis? On comprendrait que la défense se sente lésée parce que la personne qu'elle défendait a été condamnée, mais l'accusation, vous pensez qu'elle n'a pas obtenu gain de cause?
Compère, avant de répondre à votre question, je tiens personnellement à féliciter le gouvernement de la République, parce que je n'entendais pas que ce procès, le verdict de ce procès, c'est la rétention en direct. J'étais sur mon bureau, en train de travailler, en train de taper, de chercher des émissions, etc. Je tombe sur la RTC et je vois procès, etc. Oh là là! Alors j'ai tout laissé, j'ai commencé à suivre pendant 4 heures. Vous comprenez? la plaidoirie du président de l'océan,
c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quelque part, le grand République a dit qu'il est concerné par ce procès. Il faudrait que ça se passe au vu au-dessus de tout le monde, et chaque citoyen, tant du pays qu'à l'extérieur, puisse suivre l'évolution de ce dossier jusqu'au verdict. C'est un signal fort lancé vis-à-vis de l'opinion. Ça, c'est un. Deux. C'est un signal fort lancé à l'endroit de ceux-là, des marginaux, qui continuent toujours à tenter de détruire l'autorité établie. C'est le cas par les Koulouna. Je crois que quelques-uns, même ceux qui sont dans le quartier où ils sont en train d'exceller dans le négatif, ils ont vu hier que le procès a été retransmis en direct et qu'ils ont fait attention de leur comportement vis-à-vis de la population. Moi, je réfléchis tellement sur ce disant qu'on ne peut pas tirer ce semblable. Ceux qui lisent les Saintes Écritures, quelque part, disent que Dieu, le Créateur de l'univers, avait interpellé Caïn, où est ton frère? Et Caïn, insolent qu'il est, je ne suis pas le gardien de mon frère. Et Dieu veut réagir en bon. Mais je vois le sang de ton frère en train de pleurer ici. Pourquoi tu as fait ça?
C'est le lien avec l'affaire CBA.
C'est-à-dire que celui qui a tiré CBA n'a pas le courage de dire que, oh, la cour militaire, c'est moi qui a tiré CBA. Est-ce qu'à moi de me suivre de pardonner? Le pardon libère. Alors on se cadre avec des procès interminables. Il n'y a personne qui a tiré CBA. Il n'y a personne qui a jeté CBA au fond du fleuve, ou bien vers la route de Matadi, dans les Célis. Il n'y a personne qui a tué le chauffeur. Donc, qui a tué ce disconstruction de la République?
Mon frère, j'étais conférencier à partir de 11, après la séance même de ce jour-là, à la Conférence nationale souveraine.
Très bien. Je devrais rentrer chez moi à Cabinda, et on devrait se réunir en commission pour travailler dans un petit coin là, tout ça, avant de prendre les conquêtes là-bas. Alors, à mes côtés, il y avait un couple qui a pris de l'âge. Et de l'autre côté, il y avait un gérard aussi qui a pris de l'âge. Doucement, nous voyons sur Saint-Louis. Ceux qui connaissent Saint-Louis.
La ville
de Saint-Louis. Un chauffeur a raté de cogner un enfant là-bas. Et le papa qui était à mes côtés là, seul, de réagir. Oh là là, c'est abusé, mon Dieu. Moi, en 1961, j'avais cogné une fille qui revenait, etc. Je l'avais cogné et depuis lors, je ne sais plus comment ça va. Alors que les parents de la défense sont à ses côtés. Vous voyez la justice de Dieu. Dieu, miséricordieux, a sa justice. Celui qui a tué CBA ne dort pas, il a l'insomnie. Celui qui a tué Bazamado. Alors, même s'il y a des recours, etc., mais il y a un problème de fond, on a tué un compatriote.
Et donc, les partis ont raison de
dire. Il peut être appelé, il peut dire qu'on peut être satisfait, mais Dieu nous regarde et attend. Voilà.
Merci, Thomas Mangoubou. Comment la presse à Kisangani, la presse bolognaise, a traité cette information sur les verdicts du procès CBA?
Merci, confrère. Il est un fait que nous continuons tous encore aujourd'hui à déplorer, à regretter la disparition de notre frère CBA, qui constituait avec la voix des sans voix une lanterne et un garde-fou contre les dérapages en matière des droits humains et surtout à l'endroit des pouvoirs publics. Mais au niveau de la presse de Kisangani, la presse estime que le verdict rendu par la cour militaire n'est pas encore celui qu'on attendait, je n'ai pas parfait, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas encore satisfaits. Le verdict est donc insatisfait, et dans cette ambiance, il y a un insatisfaisement. Aujourd'hui, dans cette ambiance congolaise où la justice et le comportement de ceux qui tiennent la justice sont décriés, ça c'est vrai. Néanmoins, ma presse au niveau de Kisangani considère qu'il y a lieu de noter que la justice congolaise a franchi là un grand pas vers son redressement. Le verdict, il est vrai, nous l'avons souligné, n'est pas celui que tout le monde attendait, parce que les deux parties contestent ce verdict et ils voient un appel, mais au moins on estime que, on pense que la justice congolaise commence à se redresser peu à peu et que la vérité finira par éclater. On connaîtra certainement les vrais meurtriers de ce pays-là. Donc, comme l'affaire est en appel aujourd'hui, tout le monde attend et tout le monde est convaincu que un jour ou l'autre, les meurtriers seront connus et sanctionnés.
Voilà. D'ailleurs, la justice congolaise commence à se redresser. C'est le propos de Clément Mangoubou. On peut attribuer cela à quoi? À l'évolution de la perception de la société par certains juges ou à une certaine pression qu'aurait exercée l'opinion congolaise sur l'État congolais?
Les deux. Parce que, à titre d'exemple, si les avocats de la partie civile ne s'étaient pas retiré du procès depuis le 8 mai, n'est-ce pas? Je ne sais pas si on en serait arrivé à ce verdict. Parce que déjà, on a commencé à disqualifier les faits. Il a commencé à être dit que, à titre d'exemple, Kébéa était mort par accident, c'était une bavure, c'était pas un assassinat. Mais le fait que, pour protester contre cela, les avocats de la partie civile ont quitté la salle. Cela a fait, c'est une pression qui a fait que cette fois-là, on a parlé pour Kébéa d'assassinat. Parce que quand on tient compte des montages grossiers, n'est-ce pas, qu'on a monté de toutes pièces et de façon grossière, quand on a découvert le corps de Kébéa, on va se demander qu'est-ce qu'on voulait cacher, n'est-ce pas? Malgré cela, avec l'évolution du temps et la pression populaire, et comme l'a dit Saïd tout à l'heure, peut-être que la conscience, Dieu aidant, a fait qu'on commence à revenir à la raison vivement, que ça aille à tous les niveaux et que tous nos juges reviennent à la bonne voie.
Et Saïd Mbalanga, parce que toutes les parties disent qu'elles n'ont pas obtenu gain de cause, comment vous vous entrevoyez la suite?
Mais toutes les parties sont allées rechercher quelle finalité? Je ne sais pas. La défense dit qu'elle n'est pas satisfaite. Mais au niveau de la défense, pourquoi des gens qui sont consensués d'un événement malheureux qui est arrivé dans notre pays, c'est pour monde pour défendre une cause qu'on ne peut pas défendre? C'est vraiment incroyable. Il y a mort d'homme. Je sais que l'avocat. L'avocat peut toujours défendre, même un voleur, même un Kouluna, mais les faits. On a décapité une famille. Kébéa a laissé une veuve et des enfants. Mais vous qui défendez ceux qui ont prétendu Kiwe et Philosophie de croire. Kiwe et Kébéa, vous les défendez. Mais en même temps, vous les faites à cause de l'argent ou bien. Vous le faites en nom et conscience de la Cour de justice.
La défense dit que la Cour n'a jamais établi la responsabilité de ses clients dans l'assassinat de Kébéa.
Mon père, hier j'ai suivi le colonel président de séance. Il a commencé à lire, par exemple, la période. Il va de 17h tard jusqu'à 17h35, où il y a eu des SMS qui circulaient partout par là, et les commanditaires, disons là, entre guillemets, ne savaient pas comment signer Kébéa. Le tour de Kébéa est en train de suivre l'évolution de son mari quelque part. Son mari lui répond, non, je suis coincé, je vais vous répondre dès que je serai sorti de cette histoire où je suis aujourd'hui. Il envoie un message, mais il signe, c'est Bar Kébéa. Alors, les autres, après avoir commis en son malin leur faux-fond, commençaient à répondre aux SMS de madame. Sans signature, sans vérification. Ouais. Alors, moi, j'ai aimé le président de séance, le colonel qui disait tout ça. Oh, ça fait 35, ça fait 36. Moi, j'ai aimé ça comme procès. Hein? Moi, j'ai aimé ça.
Clément Mangoubou, est-ce qu'un jour on pourrait aboutir à un verdict qui satisfasse toutes les parties?
Oui, je crois que, je le disais, là on a franchi un pas important, la justice congolaise, et c'est une avancée significative. Mais l'affaire connaîtra certainement son épilogue un jour ou l'autre. Ça c'est vrai, quelle que soit la longueur de la nuit, comme on dit, la journée finit toujours par pointer. Et je crois qu'aujourd'hui, quelque part, comme l'a souligné Benoît, il y a un problème de confiance. les gens ne sont pas tranquilles. Mais un jour, ça finira par se savoir.
Merci. Nous passons à notre deuxième thème de ce soir. Clôture mardi dernier à Lubumbashi de la 7e commission mixte RDC Afrique du Sud. Plusieurs accords ont été signés par les deux chefs d'État, notamment sur la coopération dans le secteur de l'eau. Les villes de Lubumbashi et Likasi sont les premières ciblées dans l'amélioration de l'approvisionnement de la population en eau potable. Colin Douma-Moussampo pour les détails.
Dans leur discours, les deux chefs de l'État ont reconnu les progrès enregistrés depuis la mise sur pied de ces accords qui lient leur pays. Le président sud-africain est revenu sur les premiers accords de 2006, marquant la période de transition en RDC, ce qui a conduit le Congo aux premières élections libres et démocratiques. Jacob Zuma se félicite de la signature des présents accords signés au moment où la RDC se prépare à organiser de nouvelles élections. Celles-ci amèneront la RDC à la paix et à la stabilisation. L'Afrique du Sud s'engage à contribuer aux élections sur le plan logistique en vue d'assurer la réussite du processus électoral. De son côté, le chef de l'État congolais s'est dit satisfait de la mise en application de certains accords signés avec l'Afrique du Sud, notamment dans le cadre de la formation de la police et du recensement de la fonction publique. Joseph Kabila exprime le désir de voir l'Afrique du Sud accompagner son pays dans la réalisation de certains projets tels que l'amélioration de la fourniture en eau potable. Dieu le Lubumbashi, Colin Zuma, Moussampo, Radio Okapi.
Salut Mbarana, comment vous réagissez aux décisions prises à l'issue de ces travaux de Lubumbashi?
C'est à féliciter, c'est-à-dire que l'autorité du pays est toujours en quête pour le mieux-être du Congolais. C'est pour ça qu'il se déplace, hein, il prend la vie à gauche, il va à droite, il prend les accords, etc. Il signe des accords pour le bien-être du Congolais, le social. Tout en applaudissant ce qui s'est passé en Lubumbashi. Mais c'est un problème national, hein, c'est un problème national. J'ai apprécié dernièrement ici, au moment où les députés étaient au palais du peuple. Le courant est parti. La séance a été suspendue. Et le président de l'État a dit non, 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 c'est pas comme ça. Il a appelé les animateurs, législateurs-là, les ministres de l'énergie, qui gèrent l'eau et l'électricité. Il a appelé certains députés, etc., pour que d'ici à 7 mois, la ville de Kinshasa, capitale de la République, soit éclairée de fond en comble. Que l'eau atteigne celui qui a à Mitendi là-bas, et pas à Kisuka là-bas, et vers Mokali, etc. Vous comprenez un peu à Kikole. Donc, c'est un souci qui a une autorité nationale pour que partout, si on commence à Likati, à Lubumbashi, qu'on soit aussi. Il y a le système là d'enfer, le puits hydraulique, hein. Il y a des gens qui sont capables d'implanter ce puits-là à travers la République, hein, à un coup. Après ça, quitte alors au gouvernement. Lorsque le gouvernement attrape des accords à l'extérieur pour le soutenir à gauche, il faut aussi au niveau de l'intérieur que le gouvernement bouge les ménages pour que, à Bassokoye de l'eau, à Tizé de l'eau, à Issagé de l'eau, donc l'eau c'est la vie, vous comprenez? Si les gens n'ont pas une eau potable saine, les maris s'en suivent. Vous comprenez? Alors j'apprécie surtout l'angle politique, hein, l'Afrique du Sud dit que je vais accompagner, je vais aider la RDC avec des logistiques. Non, ils nous aident rapidement. Et pour que les directives arrivent par-ci par-là pour prendre des maris partout. Vous comprenez? Donc j'apprécie et je dis que.
Attends, au revoir. Bien la desserte d'un eau potable pose problème dans presque toutes les provinces, dans toutes les provinces en République démocratique du Congo. Absolument. Vous pensez qu'avec la signature de ces protocoles d'accord, on peut espérer qu'une solution est en vue?
Bah, écoutez, c'est déjà ça. Hein. Comme l'a dit tout à l'heure le confrère Saïlé, n'est-ce pas, il n'a pas manqué de parler de son Bassoko natal, ce qui est tout à fait normal. Absolument, dans la Tchopo d'ailleurs. Il n'y a pas que Likasi et Kolwezi qui sont. C'est toute la République, comme tu l'as dit. Et il ne faudrait pas qu'on attende seulement les accords avec les pays étrangers. Ça doit être. Et il semble même que ça fait partie de son chantier, n'est-ce pas?
L'eau.
Alors, il ne faut pas qu'on attende que l'Afrique du Sud prenne seulement Likasi et Kolwezi. Il faut que ce soit un problème national. Les points que le confrère Saïl a cité de la ville de Kinshasa. Déjà, dans la ville de Kinshasa, il y a un sérieux problème d'eau dans cette ville. Même dans les quartiers urbanisés. Il a cité des quartiers de la périphérie. Même dans les quartiers urbanisés, il y a un problème d'eau. Alors, il ne faudrait pas qu'on attende seulement les accords avec... mais il faudrait que ça soit une véritable politique nationale et que ça soit pas seulement dans les villes, comme le disait le maréchal Mobutu. Kinshasa n'est pas la République démocratique du Congo, n'est pas le Zaïre à l'époque. Il faudrait que tous les territoires du pays, tous les villages du pays aient de l'eau potable et on aurait moins de maladies, on résoudrait pas mal de problèmes.
Il faut rappeler qu'il y a un programme d'urgence évalué à environ 4 millions de dollars américains qui est déjà appliqué pour justement trouver une solution à ce problème dans la ville de Kinshasa.
Programme d'urgence d'ici, ça ne doit pas être un programme d'urgence, ça doit être une politique bien faite et planifiée. Ce n'est pas des points d'attente, des points d'urgence qu'on doit résoudre. On doit résoudre les problèmes globalement et pour ça, il faut que ça soit bien planifié et que les choses se fassent normalement.
Clément Mangoubou, comment se présente la situation des ressources en eau potable dans la ville de Kisangani?
C'est tout simplement dramatique. Parce que vous savez que à Kisangani, la commune de Lubunga, la commune de Mangobo, aussi les 6 communes que nous avons, toute la périphérie Kabondo, Lubuyabera, les gens consomment l'eau des pays, l'eau qui n'est pas traitée, de l'eau sujet, et vous comprenez que nous sommes encore, jusqu'à maintenant, menacés par les choléras. Cela fait plus de 6 mois que nous sommes attaqués par les choléras dans la ville. Et les choléras viennent même de gagner des milieux comme Bolobo, et je crois que les choléras progressent à cause du schéma qui est d'eau potable. Alors, l'addition d'eau doit constituer un effort permanent du gouvernement. Ça ne doit pas être une affaire des accords bilatéraux. Non, ça doit être un effort permanent. À Kisangani, il n'y a pas d'addition d'eau. Et ça pose un problème. Une commune comme Lubunga, plusieurs quartiers n'ont pas d'eau. À Mangob, il y a des quartiers qui n'ont pas d'eau. Et pourtant, nous avons la régie des eaux ici, nous avons l'ASNEL. Nous avons des moyens, les gens payent l'eau, mais comment est-ce qu'on n'arrive pas à servir l'eau à tout le monde? Donc c'est un problème sérieux parce que des maladies d'origine hydrique sont nombreuses ici. Si vous allez par exemple au centre ville, au marché central, il faut voir comment les gens utilisent l'eau, un seul robinet pour tout le monde. Si vous allez dans beaucoup de coins, il n'y a pas d'eau, c'est maintenant. On a vu des véhicules qui sont venus dans le cadre des essais sanciers pour créer des puits dans la périphérie de Kisangani. Ça a commencé à 25 km de là et je crois que selon ce qu'on attend, ça va aller un peu partout. Mais c'est vraiment dramatique et c'est déplorable.
Saïd Mbaranga, l'autre aspect évoqué lors de ces assises, c'est le processus électoral, là, avec la Sud qui a promis de soutenir ce processus.
Mais c'est bien beau, hein. Il faudrait que la CENI dispose des moyens de sa politique. Il y a eu des orateurs, et si la Sud veut nous accompagner, tant mieux. Mais je voudrais revenir un peu avec ce qui se passe à Kisangani pour sensibiliser les Boyomés et les Boyomés à s'enrôler massivement afin que demain, qu'ils disposent des animateurs politiques de politiciens intellectuels voulus, des gens qui sont capables.
De bon, parce que c'est une petite ville de la République.
Non, c'est vrai, c'est à travers la République, mais j'insiste parce que nous, comme a dit mon frère là-bas, que les gens ont de freiner les pas parce qu'ils n'ont pas eu gain de cause. Moi, je dis que la vie continue et on doit avoir l'espoir. Enrôlez-vous massivement pour que demain vous ayez des députés consultants, des députés qui réfléchissent. Même si un député, c'est un législateur, même si un député, c'est celui qui contrôle le gouvernement, un député peut avoir aussi des idées pour transmettre, par exemple, au ministre de l'énergie. Pour le ministre de l'énergie, il est le ministre de l'énergie nationale, il doit faire le tour de la République pour faire l'état de l'air de l'eau et de l'énergie à travers la République. Je crois que c'est ça.
Merci, nous passons à notre dernier thème de ce soir, le processus électoral, signature mardi dernier, et la charte de la plateforme politique dénommée Alternance du Camp Caméré avec en cible. Cette plateforme veut soutenir la candidature de Vital Caméré et assurer sa victoire à la prochaine présidentielle. La charte de cette plateforme a été signée mardi à Kinshasa par plus de 20 partis politiques de l'opposition, des associations de la société civile et des personnalités indépendantes. Inosa Olenga pour les détails.
Parmi les signataires de cette charte, quelques figures des proues comme Jeannot Moïse Kongolo, Gaston Guizot, Charles Bofassa, professeur Moulumba Kati et Madame Nelly Mungulu-Diak. D'autres partis comme l'ULD de Katebe Katoto sont avec l'ancien président de l'Assemblée nationale. Objectif poursuivi, les positionner à la tête de la magistrature suprême, comme le confirment les députés Charles Bofassa Dima. Invité surprise avec un discours surprise à cette manifestation, Némon Dassini, chef de Bundiga Mayala. Lui-même, le candidat de l'AVK n'a pas manqué de mots, son seul objectif du PIB, prendre le pouvoir.
Je voudrais être clair, je ne veux pas me discuter la fraternité de l'opposition et de qui que ce soit. Je donne l'opposition à celui qui veut la garder éternellement. Mon ambition, c'est de devenir président de la République.
Il faut dire que l'alternance Vital Kamerhe laisse les portes ouvertes pour les nouveaux adhérents.
Clément Mangoubou, vous êtes éditeur responsable du journal Mwangaza, c'est un hebdomadaire situé à Kisangani en province orientale. Votre commentaire par rapport à la mise en place de cette nouvelle plateforme au sein de l'opposition?
Oui, mon commentaire est que l'opposition est tout simplement en train de faire des naufrages dans une flaque d'eau. L'opposition, c'est déjà un édifice divisé contre elle-même. Vous avez en face de vous une opposition parlementaire et une opposition extra-parlementaire. Et vous avez en face de vous des partis qui se disputent les leadership au sein de cette opposition-là. Ce qui fait que l'opposition aujourd'hui, divisée contre elle-même, s'est affaiblie. Et je crois que ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est de demander à l'opposition de s'entendre, de se mettre ensemble pour s'entendre. Parce que quand sa mère dit, il est sur l'opposition à ce qu'il s'est dit. C'est qu'il n'est pas opposant. Il est dans quoi finalement? Il est dans l'opposition. Dans l'opposition. Mais c'est au niveau de l'opposition qui doit se battre pour qu'il y ait l'harmonie, qu'il y ait un fonctionnement normal de cette opposition et qu'on en arrive à trouver un candidat unique, entre guillemets. Mais si aujourd'hui, l'objectif pour lui, c'est de se positionner comme candidat président de la République, au mépris de ce qui peut être fait comme un accord au sein de l'opposition et parlementaire et extra-parlementaire, c'est tout simplement regrettable. Et j'ai dit, j'insiste, l'opposition congolaise est en train de faire naufrage dans une flaque d'eau.
Merci, salut Maranga, vous êtes éditeur directeur responsable du journal de la CEPO, et nous avons d'ailleurs qui paraît à Kinshasa. Clément Mangoubou dit que l'opposition est en train de faire naufrage. Au moment où l'on parle d'une candidature unique au sein de l'opposition, l'on voit des différentes candidatures qui se manifestent, qui sont annoncées, et cela est dû à cette division dont parle Clément Mangoubou.
Sur le contraire, je peux vous dire seulement ceci. Je suis parmi les politiques de ce pays qui a évolué depuis 1991 à la Conférence nationale souveraine. Et je tenterai de dire que l'histoire se répète souvent. À l'époque du maréchal de Ex-Zaïre, l'opposition autour de l'homme de la 12e rue a vraiment, à l'époque, pesé sur la balance, et le maréchal était presque au dos au mur, vous comprenez? Alors, qu'est-ce que j'avais commencé à constater par la suite? C'est le maréchal, en tant que stratège à son temps, il avait commencé à dépêcher les opposants. Je cite, après tout ce qu'il dit, qui a été balloté à l'époque, à la CNS, pour être réunis pendant 2-3 mois, il y a eu du triomphalisme. En politique, il n'y a pas de triomphalisme. Ils étaient mis de côté déjà, d'une manière ou d'une autre.
Pourquoi vous évoquez le triomphalisme?
Mais parce que lorsque on dit qu'on est opposant, on ne peut pas aussi le temps de dire « moi je vais gagner ». Moi je vais aller d'abord à l'histoire, hein, à 91, hein. Laissez-moi délire. Après ce qu'il dit, le maréchal a pris Birindwa. Birindwa c'était le cerveau moteur du stop.
service technique de production. Bérigo, c'est l'homme qui faisait bouger le maréchal du Cervet, c'est le ville mort tout et tout. Bérigo avait mordu à la maison. Il est devenu premier ministre. Après Bérigo, on a attrapé Mongol Data. Hein, le grand dribblé Mugudata a été dribblé par le maréchal. On lui a donné 47 jours du gouvernement. Il ne sait pas venir. C'est très important qu'on fasse. Le temps est là pour nous tous, mais l'histoire. L'histoire pour la progéniture. L'histoire pour ceux qui nous suivent. Après Mugudata, Mouze, c'est son frère, avait dit au palais de la nation un jour, mon frère, vous revenez encore au côté du maréchal. Mais c'est quoi les gars, vous voyez? L'histoire. L'opposition est là pour quoi faire? L'opposition est là avec quel projet de société. Au moment où nous sommes en train de parler, les partis politiques sont en train d'être émiettés à tout ça.
Donc nous voyons à cause de ne pas faire de l'opposition, je ne suis pas opposant, je suis politique équilibré, je suis journaliste, directeur d'un journal qui met un point sur les hypothèques, ne trompons pas le peuple.
Lorsque nous opposants, on n'est pas directement président de la République. On s'est mis lentement pour devenir premier ministre, pour devenir au niveau du Parlement, devenir président de l'Assemblée nationale. Et molo, la présidence de la République, ça veut dire quoi? Lorsque nous sommes le premier ministre, il faut être sur toutes les tendances de la République. Dans tous les territoires, qu'on vous voit physiquement, qu'on vous approche et vous communiquez avec la population. Ce n'est pas si facile, hein. Il faut avoir l'argent. Pas d'argent des francs congolais, des milliards de dollars avec des jets, avec des vélos, avec des bateaux. C'est pas facile, mon père.
Voilà, j'ai une bonne façon, allons-y.
Bruno Cambiaré, vous êtes rédacteur en chef du magazine Les Échos de la région des Grands Lacs, un magazine qui paraît ici à Kinshasa. Le fait d'avoir mis en place cette nouvelle plateforme au sein de l'opposition, cela pourrait refléter la division. Nous savons que à travers le monde, les familles politiques ont à leur sein des courants. Est-ce que ça peut vraiment poser un problème?
Bon, en principe, si tout allait comme il se doit, ça ne devrait pas poser un problème. Mais on ne peut pas aller en ordre dispersé, y aller par le populisme, y aller par des petites phrases assassines qui n'arrangent rien. Et vous avez vu, à titre d'exemple, en ce qui concerne cette plateforme qui est d'ailleurs, je me demande si ceux qui ont choisi le nom de la plateforme ont bien réfléchi. Ce n'est pas une alternance qu'il faut dans notre pays maintenant, c'est une alternative. La nuance est de taille. Si on fait une alternance de quelque chose qui a toujours été, ça ne sert à rien. C'est une alternative qu'il faut. Je me fais comprendre. Si on doit y aller par des attaques personnelles, par des petites phrases assassines, des attaques, en principe, futurs partenaires, même si certains disent que c'est des positions pour négocier, mais on n'y va pas comme ça, en s'attaquant les uns les autres. Ce qui donne de l'eau au moulin à ceux de l'autre camp. J'ai vu une interview aujourd'hui dans le sens, n'est-ce pas, de Koya Diallo, et tout le monde entend secrétaire exécutif de l'ANP et quelques députés de Kinshasa qui continuent à faire accréditer la thèse, et qui a vu que ça y est, enfin politique, vieux politicien, qui a pris les gens au mot. Il dit, si tu dis que tu laisses l'opposition à ceux qui sont opposants, c'est que tu ne l'es pas. Et cela est en train de plus accréditer la thèse des gens, on a entendu Francis Talombo. La Bandal dit non, il est toujours avec nous. Ce qu'il est en train de faire là-bas, c'est une mission qu'on lui a donnée. Il fasse attention, ne pas faire accréditer cette thèse. Il faudrait que l'opposition soit unie. Si on veut vraiment une alternative et pas une alternance, il faut que l'opposition soit unie. Il faut que tous se serrent les coudes pour une cause unique, celle du véritable changement. Mais si on continue comme ça, c'est râpé et c'est râpé pour toujours. Et Koya Diallo a dit, il est de nôtre, il restera de nôtre, il va rentrer dans la maison. Je ne me cite pas de lui.
Merci, c'est la fin de cette émission. Guy Mandangou était à la technique, Alain Hirong à la réalisation, assisté de Kelly Kouté sous la supervision de Martin Sébujangwe, devant le micro, Guy Mastier. Merci et bonne suite de programme sur Radio Okapi. Thank you.